Radio Capucin 94.5 FM. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de Nadia.
Et Monsieur Daubard.
Et toi, tu t'appelles comment ?
Elou.
Alors, on va vous poser quelques questions. Où étiez-vous quand le mur de Berlin est tombé ?
Alors, lorsque le mur de Berlin est tombé, il est tombé le 9 novembre 1989. À l'époque, j'étais professeur dans un lycée à Hambourg. Hambourg est en RFA. Et c'est à environ 40 km de la frontière qu'il y avait entre la RFA et la RDA. Et c'est à environ 300 km de Berlin.
Ok. Et combien de temps a-t-il fallu pour que le mur soit totalement tombé ?
Alors, le mur n'est pas tombé d'un seul coup. Nous avons eu une surprise ce 9 novembre d'apprendre en fin de journée que le ministre M. Schabowski, le ministre est-allemand, avait déclaré à la presse étrangère que dorénavant les ressortissants d'Allemagne de l'Est allaient pouvoir enfin quitter leur pays sans avoir énormément de démarches à faire comme par le passé. En fin de compte, lorsqu'il a annoncé cela, ce n'était pas vraiment quelque chose qui avait été mûrement réfléchi. On le voit lorsqu'on regarde le film qui était tourné pendant cette interview. Il répond, mais sans être sûr de ce qu'il avait à dire. Il hésite, et bien sûr, ça se répand comme une traînée de poudre, et les gens vont alors se précipiter vers le mur. On ne va pas pouvoir passer tout de suite, il va y avoir des tractations qui vont durer un petit peu. Et puis enfin, on va les laisser passer dans des circonstances pas toujours très simples. Mais le mur par lui-même va rester en place pendant encore de nombreux mois et même parfois des années. Puisque si vous allez aujourd'hui dans certains quartiers de Berlin, on en a conservé des morceaux en guise de monuments historiques, comme une sorte de musée en plein air.
Ok. Avez-vous participé à sa destruction ?
Alors, oui, indirectement. Je n'ai pas appuyé sur le mur et il est tombé. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais effectivement, à l'époque, nous partions dès que possible le week-end à Berlin. Parce que, on avait envie de vivre, nous aussi, ce moment historique. Et comme je vous l'ai dit, Hambourg-Berlin, ça représente environ 300 km. 300 km, ça se fait très vite. Donc, on partait le vendredi soir et on rentrait le dimanche soir. Et nous partions avec nos burins et nos marteaux pour aller, nous aussi, casser un petit peu de ce mur en béton. Et rapporter quelques morceaux comme ça à la maison en guise de trophée. Alors bien sûr, j'ai fait partie de ceux qui sont allés taper contre ce mur, mais je n'ai pas la force d'Obélix et je n'ai pas réussi à faire tomber un pan à moi tout seul.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la RDA ?
Alors la RDA, c'est un pays qui est né le 4 octobre 1949. Et résulte de la scission qu'il y a eu entre la partie ouest de l'Allemagne et la partie est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Si on fait un peu d'histoire, c'est très simple. Nous avons eu en 1945, donc la fin du nazisme et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec le 8 mai 45, la fin des hostilités, la capitulation allemande, qui a été signé dans un premier temps à Reims, puis ensuite de nouveau à Berlin. Et il y a deux entités qui vont s'opposer. D'un côté, les Américains, les Anglais, les Français, qui représentent le monde capitaliste, et de l'autre côté, les Soviétiques, qui représentent le monde communiste. C'est-à-dire que ce sont deux entités qui sont diamétralement opposées, donc elles ne peuvent pas s'entendre. On va passer sur les détails, mais au départ, il y avait quatre zones en Allemagne de fin de la guerre. La zone qui était au nord de l'Allemagne était la zone britannique, parce que libérée par les Britanniques. Celle du centre était la zone américaine, parce que libérée par les Américains, plus la Bavière. Et les Français avaient la Sarre et ce qui est aujourd'hui à peu près le Bade-Württemberg. Et puis, à l'est, il y avait la zone soviétique, parce que libérée en grande partie par les Soviétiques. Bien. Le problème était qu'en plein milieu de cette zone soviétique, il y avait l'ancienne capitale, Berlin. Berlin a été aussi divisé en quatre parties, donc les trois parties capitalistes et la partie communiste. Bien. Les gens de l'Ouest ont essayé, dès que possible, de faire que la partie ouest de Berlin ressemble à une capitale, à une vitrine du capitalisme. Et donc, il y a eu très vite ce qu'on appelle des antagonismes. Et on a vu aussi les gens qui n'étaient pas d'accord avec la zone d'occupation soviétique quitter cette zone pour se rendre vers la région de l'Ouest. Bien. Dans tout cela, il y a eu les zones qui se sont ensuite unifiées, la zone américaine, anglaise et française, et la zone soviétique qui n'a pas voulu entrer dans cette sorte d'entente. On a créé ensuite, en 1949 également, à l'ouest, en mai 49, est créée la RFA, République fédérale d'Allemagne. Et en réponse, on va trouver le 4 octobre, comme je le disais tout à l'heure, le 4 octobre 1949, la création de la RDA, République démocratique allemande. Les relations ne sont pas toujours bonnes. On a eu déjà en 48 un blocus de la zone de Berlin ouest par les soviétiques, de manière à ce que, comme à l'époque des châteaux forts, on puisse avoir une sorte de siège qui fasse que les gens se rendent. Mais les Américains ont mis en place un pont aérien et toutes les trois minutes, il y avait un avion qui décollait ou atterrissait à Francfort et à Berlin pour faire le ravitaillement, ce qui fait que ce blocus a été arrêté. Ensuite, toujours pour cette RDA, elle s'est bien sûr développée selon le modèle soviétique, qui n'était pas du tout le même que le modèle que nous avions à l'Ouest. Là, à l'Ouest, on vivait comme nous ici actuellement. Et au fil des ans, les relations se sont de plus en plus tendues. C'est ce qu'on a appelé la guerre froide. Et le 13 août 1961 a été construit ce fameux mur de Berlin qui devait empêcher les gens de passer d'un côté et de l'autre. La frontière, partout ailleurs, était déjà quelque chose de très difficile à franchir.
Ok. Étiez-vous déjà allé en Allemagne de l'Est avant que le mur tombe ?
Oui. Alors, je suis allé pour la première fois en Allemagne de l'Est en 1986. C'était en septembre, en plus c'était une journée assez grise, un peu comme on peut en connaître en octobre ou en novembre. Et il fallait, alors c'était déjà assez difficile parce que on ne pouvait pas passer là où on voulait, il fallait absolument avoir un passeport, et puis il fallait prendre un visa pour la journée, et il fallait le soir ressortir exactement au lieu où on était passé le matin pour entrer. La ville était beaucoup moins éclairée, était beaucoup moins chatoyante que Berlin-Ouest, ce qui fait qu'on avait un certain sentiment de malaise. Moi, je l'ai ressenti comme ça, je ne me sentais pas très à l'aise. Et puis, dans les magasins, eh bien, on ne trouvait pas vraiment ce à quoi on pouvait aspirer. Et puis, sinon, on se rendait dans un restaurant. Eh bien, c'était toujours écrit au bas du menu « selon livraison ». Et ça, c'était assez surprenant parce que régulièrement, on vous disait, lorsque vous commandiez quelque chose, « ah ben non, on n'en a pas ».
Et qu'avez-vous ressenti ?
Comme je le disais tout à l'heure, un certain sentiment de malaise. Il y a des endroits où on arrive et on se sent pas très très bien. Là, c'était un peu ça. Quand on franchissait la frontière, d'abord, il y avait des étapes obligatoires qui étaient indispensables. Et on devait passer un par un, présenter ses papiers, changer obligatoirement 25 marques ouest contre 25 marques est. Sachant que théoriquement pour 25 marques ouest on aurait dû recevoir 100 marques est, mais c'était pas le cas, ils nous donnaient 25 marques. Bien. Et après dans les magasins, le fait de ne rien trouver, etc., les gens qui vous recevaient dans les magasins ou dans les restaurants n'étaient pas spécialement aimables, non pas que leur nature était de ne pas être aimable, mais qu'ils réussissent à vendre plein de choses ou très peu de choses, pour eux, ça ne changeait rien. Ils n'allaient pas être mieux payés, ils n'allaient pas avoir de félicitations, etc. Donc, on entrait dans un magasin, par exemple. J'ai vécu quelques années plus tard dans un autre pays de l'Est pour acheter des chaussures. Il n'y avait pas beaucoup de modèles et puis on n'était pas sûr de trouver la pointure. C'était selon livraison, là aussi. Et puis, il y a quelque chose qui était très choquant pour nous, c'est que dès qu'on arrivait à Berlin-Est, eh bien, on voyait partout beaucoup de soldats, des uniformes, des armes, etc.
Après la chute du mur, les Allemands de l'Est ont-ils mis du temps pour retourner vers l'Ouest ?
Alors, c'était pas évident parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'était deux cultures différentes. Hein, et effectivement, beaucoup ont aspiré très vite à vivre comme à l'Ouest, tout en restant sur leur territoire, ce qui est normal parce qu'ils avaient toutes leurs racines qui étaient de l'autre côté du mur, de l'autre côté du rideau de fer. Et ils ont essayé d'implanter chez eux le système qu'il y avait à l'Ouest. Voilà.
Et vous avez ressenti quoi quand le mur est tombé ?
Alors, c'était sur le moment une grande surprise. On a été, quand on a eu l'information, au début, on n'a pas voulu le croire. Parce que lorsque j'étais à votre place, lorsque j'étais élève, dans les cours d'allemand, on nous présentait plein de villes, plein de morceaux d'histoire, si je puis dire, qui étaient encore à l'Est. Et je me disais, je ne pourrais très certainement jamais aller les voir. Et puis, ce soir-là, on nous informe que le mur est tombé. Alors, bien sûr, ce n'est qu'une image, hein, il n'est pas tombé pour de bon. Comme je le disais tout à l'heure, il a fallu plusieurs mois. Mais tout un pan de l'histoire allait changer. Et on était partagé entre la joie de se dire, ça y est, on va avoir accès à ce pays. Les Allemands de l'Est vont pouvoir venir en toute liberté de notre côté. Et puis une certaine crainte, puisqu'on se souvenait de comment s'étaient passées certaines choses, certaines révolutions qui avaient été tentées à l'Est dans plusieurs pays, comme le printemps de Prague, etc., où on avait vu les chars soviétiques déferler dans les villes pour arrêter tout cela. Et on ne savait pas, même si on avait entendu les discours du chef de l'URSS, qui était à l'époque Mikhail Gorbatchev, qui était plutôt du genre à nous donner confiance, mais on ne savait pas exactement s'il n'allait pas lancer les chars contre la population, et y compris le cas échéant contre nous, puisque certains montaient sur le mur, ce qui était formellement interdit. Donc, une joie avec une certaine crainte, et ce n'est peut-être qu'après coup qu'on s'est aperçu qu'on était en train de vivre un moment historique.
Vous avez fait quoi après quand le mur est tombé ?
Alors quand le mur est tombé, effectivement, on est allé pratiquement tous les week-ends faire un tour à Berlin, mais pas uniquement à Berlin, puisque nous, à Hambourg, on était à 40 km de la frontière. Et je me souviens que lorsque la frontière a été ouverte au niveau de la mer Baltique entre la RFA et la RDA, ils ont fait un passage comme ça, mais un passage juste pour les piétons. Il fallait passer par la plage, c'était très amusant. Et un week-end de février, donc on est passé pour faire un tour comme ça. Et j'ai eu une vision qui était assez amusante, je crois que je la garderai jusqu'à la fin de mes jours en mémoire. Il y avait un champ, mais dans ce champ, il n'y avait rien de planté. Bien sûr, on était en février. Il avait été complètement aplati parce que tous les habitants de proximité en Allemagne de l'Est étaient venus avec leur Trabant. Alors la Trabant, c'était cette petite voiture en plastique qu'il y avait en RDA, qui avait un moteur de temps, c'est-à-dire un moteur de vélomoteur, un mélange huile-essence pour fonctionner, qui faisait un bruit épouvantable et qui sentait très mauvais. Et donc il y en avait plein de garés partout dans un champ. C'était non pas un champ de coquelicots ou je ne sais quoi, mais c'était un champ de Trabant. Et donc pour nous, c'était vraiment quelque chose d'assez amusant. Et puis, on a pu aller visiter des villes dont on rêvait depuis longtemps, comme Rostock, par exemple, une ville sur la mer Baltique. Et puis, je me souviens que lorsque j'étais à votre place, j'avais entendu parler de l'histoire de Martin Luther, qui avait vu le diable et qui avait lancé l'encrier contre le diable. Mais bien sûr, l'encrier était allé se briser sur le mur blanc de la pièce du château de la Wartburg où il était hébergé. Et je me disais toujours, quand j'étais élève, je ne pourrais jamais voir ça. Et là, une de mes premières idées, c'est il faut aller à la Wartburg pour aller voir la fameuse tâche de Luther.
Les Allemands de RDA, ils ont mis du temps à s'adapter.
Oui, parce que c'était deux systèmes totalement différents, comme on le disait tout à l'heure. Et pour eux, le fait de pouvoir avoir tout de suite, c'était inconcevable. Le délai de livraison pour une Trabant, comme je le disais tout à l'heure, c'était dans le meilleur des cas 14 ans. Pour nous, c'est impensable d'aller chez le concessionnaire de marque X ou Y et de dire « bon, ben, je commande une voiture, vous me la livrez dans 14 ans ». On, dans certains cas, on peut même l'avoir pratiquement le jour même, notre voiture. Eh bien là-bas, non. Délai de livraison pour une voiture neuve, 14 ans.
T'as quelque chose à dire, non?
Mais il n'y a pas que pour les voitures, hein, c'est ce que je vous disais aussi, pour les chaussures, c'était selon livraison, l'alimentation c'était selon livraison, ce qui fait que les gens avaient développé un système d'économie parallèle, on faisait du troc. Si vous trouviez par exemple, j'ai un ami qui avait acheté des cages à oiseaux, et il n'a jamais eu d'oiseaux. Et alors après, chute du mur, on a fait connaissance. Et je lui dis, mais un jour, il montre ça dans sa maison. Puis je lui dis, mais t'as eu des oiseaux? Il me dit, non, j'ai jamais eu d'oiseaux. Mais je lui dis, pourquoi t'as acheté des cages? Parce que pour nous, c'était impensable. Là, il me dit, parce que ce jour-là, il y en avait eu de livrés. Et je me suis dit que j'avais de l'argent dans la poche, je pouvais en acheter. Et si besoin en était, après, je pourrais peut-être l'échanger contre un pneu pour mon vélo ou autre chose, puisqu'on ne trouvait pas facilement les choses. Donc il y avait trois économies, l'économie normale, donc acheter dans les magasins mais on ne trouvait pas grand-chose, l'économie parallèle, c'est-à-dire que certaines personnes vendaient des objets dont elles disposaient mais au marché noir et il fallait le payer en dollars ou en marques ouest, et puis l'économie du troc, c'est-à-dire j'ai une cage à oiseaux, t'en trouves pas, mais toi t'as un pneu pour mon vélo puis moi j'en trouve pas, alors on fait échange. Voilà, donc ça c'était le système D pour débrouillardise. Chacun faisait comme il pouvait.
C'est pratique.
C'est pratique, mais c'est pas facile. Parce que nous, on a l'habitude d'aller au supermarché, on prend ce qu'on veut et on l'a. Là-bas, parfois, certaines dames disaient qu'elles n'avaient pas le souci de chez nous, de savoir la maman le soir qui se dit « qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui à manger ?» Eh bien, là-bas, c'était selon livraison.
Il y avait quoi comme autre pays qui était sous communisme?
Alors, il y avait tous ceux qui avaient été libérés, entre guillemets, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale par l'Union soviétique, comme par exemple la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Yougoslavie, la Pologne, etc. Et dans ces pays-là, c'était plus ou moins strict. L'Allemagne de l'Est était très stricte parce que très proche de l'Allemagne de l'Ouest. En revanche, la Hongrie, c'était un peu plus, vous diriez, un peu plus cool, peut-être. Hein, voilà. Ce n'était pas aussi sévère. Et puis, il y avait effectivement la Yougoslavie avec le maréchal Tito qui commandait la Yougoslavie et qui, lui, avait essayé de trouver un milieu, peut-être pas très facile à trouver, mais un juste milieu entre le système communiste auquel il appartenait et le système capitaliste avec lequel il voulait faire des échanges. C'était très difficile, mais il a fallu aussi pour ça qu'il tape régulièrement du poing sur la table.
Et c'était qui le président de la...
La République démocratique allemande. Alors, il y en a eu trois en tout, mais celui qui est le plus proche de nous, ça a été Erich Honecker, puisque Erich Honecker, c'est celui qui a mené la RDA pratiquement jusqu'à la fin, lorsque on est à la fin, le 9 novembre, Erich Honecker est déjà un monsieur assez âgé et qui a mené la RDA d'une main assez sévère, mais qui n'a pas su, contrairement à certains parfois, qui n'a pas su remarquer que le pays avait besoin de changer. Il est resté avec ses idées et n'a pas du tout écouté la volonté du peuple, puisque les gens ont toujours essayé de fuir, mais surtout les dernières années. Et en plus, la parole de Mikhail Gorbatchev, il ne l'a pas vraiment comprise ou n'a pas voulu la comprendre. Je ne sais pas, je n'étais pas dans sa tête. Hein. Mais il aurait peut-être pu faire que les choses se passent un peu plus en douceur.
À la base, c'est qui a créé le communisme ?
Ah, alors là, c'est une philosophie qui est née surtout par les écrits de Marx et Engels. Marx et Engels, ce sont deux économistes écrivains allemands du 19e siècle et qui ont écrit des choses importantes, comme par exemple Le Capital. Et c'est un gros livre assez difficile à comprendre, mais aussi un petit livre qui doit faire 70 pages environ, qui s'appelle Le Manifeste du Parti communiste. Et dedans, Marx explique que l'histoire de l'humanité doit être décomposée en trois parties. La monarchie, qui doit disparaître au profit, par révolution, au profit de la bourgeoisie, c'est-à-dire qui s'inspire de la révolution de 1789 en France. Et il dit que la bourgeoisie doit disparaître par la dictature du prolétariat et des paysans. Voilà, c'est comme ça que l'idée est née. Après, elle a été déclinée par plusieurs, comme Lénine, etc. Mais c'était l'idée de départ.
On a interrogé M. Devard sur la RDA. Et puis, on vous dit au revoir et à la prochaine fois.
Au revoir et merci de votre accueil.
Au revoir.
Au revoir.